Le grand témoin.
C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous présenter celui qui sera le grand témoin du jour. Et pour ce dimanche, nous recevons dans ce studio de Radio Okapi Jean-Baptiste Bokoto à Panda. Il est romancier, entrepreneur et très impliqué dans les projets de développement ici en RDC. Il est aussi philanthrope. Jean-Baptiste Bokoto à Panda, bonjour et bienvenue.
Bonjour madame.
Vous avez plusieurs casquettes, romancier, entrepreneur, acteur de développement. Nous allons en parler dans cette émission. Mais avant cela, faisons un grand pas en arrière pour permettre à nos auditeurs de faire plus ample connaissance avec vous, vous qui êtes notre invité aujourd'hui dans Grand Témoin. Vous êtes né à Bangabola, j'espère que j'ai bien prononcé,
oui, effectivement.
En 1962. C'est dans quelle partie de la RDC,
Bangabola, c'est au sud d'Oubangui, donc dans le sud d'Oubangui, pas très loin de Guémena.
Dans une mission catholique.
Naturellement.
Et c'est là où vous avez grandi, vous avez passé votre enfance ?
Non, pas du tout. En tout cas, je crois qu'à Bangabola, c'était juste pour ma maternité. Hein. Et puis après, on est allé dans une ville qui s'appelle Lissala. Donc c'est là où mon papa prestait. Donc j'ai beaucoup plus vécu à Lissala et dans d'autres villes à côté parce que mon père était dans la territoriale. Ben, ce qui fait qu'on bougeait beaucoup, hein. Donc, j'ai pas grandi à Bangabola. On a fait pratiquement le tour de la République démocratique du Congo, hein. Donc, vous savez, à l'époque, des mutations, tout ça. Les gens de la territoriale
bougeaient
beaucoup.
Vous connaissez presque toutes les RDC. Vous êtes parti dans toutes les provinces.
Et c'est ça l'avantage, hein, d'être le fils d'un administrateur du territoire.
Ah, ben, quelle chance, hein.
Oui, franchement, c'est une chance. Ça nous a permis, personnellement, moi, de connaître beaucoup du Congo.
Est-ce que ça ne perturbait pas un peu vos études, le fait de changer de coin chaque fois?
Oui, effectivement. En tout cas, au début, ça a posé quand même quelques problèmes parce que vous imaginez, je commence quelque part, par exemple à l'Équateur, et puis le lendemain, je suis dans le Katanga ou le Swahili, et puis après, je suis dans le Mbujimayi. Tout ça, vous imaginez que c'est pas c'est dérangeant, c'est perturbant. Et mes parents avaient trouvé une solution pour mes humanités. Ils m'ont fixé à Kinshasa. Donc ils m'ont envoyé auprès de ma tante. Et c'est à Kinshasa pratiquement que j'ai pu être stable dans ma formation.
Vous parlez les quatre langues nationales?
Je parle mieux le trois, donc Lingala, Swahili et un peu de Kikongo.
Vous avez grandi dans quelles conditions? Quelle ambiance?
Vous savez, à l'époque, un administrateur du territoire, c'était pratiquement c'était le patron de la territoriale. Donc, et c'était une bonne expérience à l'époque parce que, à l'époque, vous voyez vraiment que c'était l'épicentre du développement, c'était au niveau de la territoriale. Donc, c'était un administrateur du territoire, c'était vraiment un patron. Ben, ça veut dire que chez nous à la maison, c'était tout le temps des invités. Donc c'était comme si toujours c'était des fêtes parce que il fallait inviter des gens, il fallait les préparer. Donc c'était un peu dans cette ambiance là de chaleur humaine et surtout d'une bonne ambiance.
Vos parents vous envoient à Kinshasa pour vos études humanitaires. Vous commencez au collège Boboto pour les terminer à Elikia.
Tout à fait.
Saint-Joseph.
Ah, effectivement.
Pourquoi?
J'avais
été renvoyé de Boboto.
J'étais quand même un enfant assez turbulent. j'étais assez turbulent effectivement donc au cinquième des humanités, je fais une bêtise. J'ai fait une bêtise. Mais les prêtres étaient quand même assez.
Vous la partagez avec nous, c'est un secret.
voilà, ça c'est l'enfance. Donc à l'époque, donc chaque jeudi, on allait au cinéforum. Donc il y avait un cinéma, tout ça. Ben, vous imaginez, à 18 ans, 19 ans, on était déjà adolescent, tout ça. Et j'avais une petite copine en face au lycée. Alors le prêtre ont constaté que chaque après le cinéforum, donc il y avait des collégiens qui traversaient avec des copines de l'autre côté.
C'est fréquent, hein, à côté d'un collège, toujours à lycée.
Alors et curieusement, Le jour où le directeur des études a voulu faire une petite enquête, et c'est moi qu'on a arrêté. On m'a demandé si j'étais avec qui, je n'ai cité personne. Alors on m'a dit, ben voilà, comme vous ne voulez citer personne, ben c'est vous qui serez sacrifié.
Et ben voilà, vous avez donc protégé vos amis.
J'ai protégé mes amis, tout ça, et ben on m'a orienté vers le collège Ilikia. Ben je suis resté à l'internat au collège Bogoto, mais je faisais un peu le deux tout le temps, donc je faisais les cours, je suivais les cours à Ilikia, et le soir je rentrais à l'internat au collège Bogoto.
Et c'est à Ilikia où vous décrochez votre diplôme en latin philo.
Effectivement.
Après avoir décroché votre diplôme en latin philo, vous vous inscrivez à l'université de Kinshasa, Ex-Lovanium.
Oui, ben vous imaginez, à l'époque c'était automatique, hein. Ça dit que déjà on remplissait des formulaires d'inscription aux humanités. Et voilà, okay. Ben on vous demandait les options. En fait, vous vouliez faire quoi? Ben moi, curieusement, j'avais choisi au premier rang l'économie. Donc l'économie, et puis le droit et la médecine. Voilà, et quand le nom est sorti plutôt à l'économie. Donc j'ai commencé en économie avec plusieurs amis, qui sont même devenus célèbres ici. Et voilà, mais là, cette année-là, ça a été, on a connu une fermeture. Voilà, donc quand je suis revenu l'année après, et j'ai été orienté vers le droit. Donc pour moi, le droit, ça a été vraiment par accident que je fais le droit.
Par accident.
Oui, je dirais par accident, parce que mon choix, mon premier choix, c'était l'économie. Mais ça m'a récupéré, quand ça m'a rattrapé après, parce que bon, ouais, dans ma vie courante, je fais beaucoup d'économie.
Vous êtes plus dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Les faux, les hypocrites. Voilà, j'aime les gens sincères. Voilà, ça c'est vraiment ce que je ne supporte pas, les mensonges ou les gens qui sont faux.
Marié?
Naturellement.
Père de combien d'enfants?
D'un enfant.
À votre époque, lorsque vous grandissiez, c'était quelle musique qui cartonnait?
Déjà.
Entre les humanités et l'université.
Oui. Là, nous, on est tous les Zaïko.
Génération Zaïko.
Hein. Zaïko, hein. C'est la génération de Zaïko. Même dans l'esprit, dans notre façon de vivre, ça, c'est beaucoup plus Zaïko qui nous a fort marqué.
Dans l'esprit, dans votre façon de vivre, c'est-à-dire quoi?
Ben, vous imaginez, quand vous voyez, je dois parler de lui parce que c'est un peu lui qui est resté pratiquement le modèle, Nyoka Longo. C'est-à-dire, sa façon de s'habiller, c'est vraiment une façon assez soft, hein. Ben voilà. Et nous, les collégiens, étaient comme ça, toujours très propres, tout ça. Voilà. Et puis, même dans l'esprit, Zaïkos. À l'époque, hein, souvent c'était vraiment pas des gens trop extravagants. C'était des gens un peu modérés dans leur choix de vie ou dans le goût de la vie. Mais voilà. Donc c'était
une chanson un peu... qui vous revient à l'esprit de l'époque.
Voilà, c'était un peu.
On va demander à la technique de nous balancer cette chanson pour votre plaisir. Jean-Baptiste Bokoto Apanda.
Témoin.
Grand témoin vous présente aujourd'hui Jean-Baptiste Bokoto à Panda. Il est romancier, entrepreneur et très impliqué dans les projets de développement ici en RDC. Il est aussi philanthrope. Après vos études universitaires, vous vous inscrivez au barreau, mais vous êtes vite repêché comme analyste chargé d'études à la présidence de la République.
Ben oui, et vous savez, à l'époque, déjà à l'université, quand vous étiez en deuxième licence, il y avait des entreprises, que ce soit des entreprises publiques ou des organismes, tout ça, qui sollicitaient. Ben voilà. Donc, moi, je n'ai jamais fait une demande d'emploi, quelque part, tout ça, parce qu'il y avait des formulaires qui venaient de la magistrature, de l'OFIDA, à l'époque, maintenant, de GDA, contribution, tu sais, c'était comme ça. Alors, moi, je voulais à tout prix aller à la présidence de la République.
Pourquoi la présidence de la République?
Ben,
Qu'est-ce qu'il y avait de spécial?
C'est-à-dire que moi, j'avais toujours à l'esprit que il faut travailler dans une structure où vous êtes vraiment au four et moulin pour la gestion du pays. Donc, il fallait être dans une sorte de laboratoire où vous réfléchissez, où vous pouvez mettre des stratégies pour faire en sorte que les choses avancent. Donc, vous savez, ça me rappelle toujours un peu l'histoire de mon père, de la territoriale, parce que c'était des gens, voilà, qui faisaient des choses pour le pays, qui voulaient travailler pour le pays. Et je me sentais que pour moi, c'était vraiment beaucoup plus à l'aise au niveau de la présidence, que je pouvais être beaucoup plus utile. On ne sortait jamais au boulot avant 22h. Donc, il y avait beaucoup de travail. Faire des analyses, tout ça, préparer des discours, c'était vraiment du travail. Et c'était pas n'importe qui comprenait parce que,
Est-ce qu'il y avait un test de recrutement?
Naturellement, c'est ce qui a fait que, pendant tous ces temps là où on attendait, je me disais, ça a pris un peu du temps. Les autres amis étaient déjà, au four et au moulin, tout ça, magistrature ou pour d'autres. Nous, on attendait encore tout simplement parce qu'on avait été présélectionnés, mais on devait suivre tout un parcours, tout ça, suivre des formations et des choses comme ça. Ce qui fait que pendant ces temps-là, je me suis dit, bon, je vais passer un peu du temps. C'est comme ça que j'avais appelé ça, passer un peu du temps au barreau. Mais ça n'a pas traîné, parce que juste après, le nom est sorti à la présidence et on a commencé des formations pendant 6 mois de formation. Et ben voilà, quand ils se sont rendus compte qu'on était vraiment rodés, et c'est à partir de là que j'ai commencé.
En 93, vous êtes nommé chargé des missions, puis conseiller au collège politique, juridique et diplomatique au cabinet du président de la République. C'est ça, je ne me trompe pas?
Le chargé des missions est venu après. Donc j'ai commencé comme analyste, donc chargé d'études, voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on les appelle. Chargé d'études au collège de politique, juridique et diplomatique. Et c'est après que j'ai été nommé chargé de mission.
Vous quittez la présidence en 97.
Ben oui.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à cause de l'entrée de l'AFDEL?
Naturellement. Et c'est à partir de ces jours-là qu'on est devenu des retraités, des jeunes retraités. Parce qu'en fait, on a récupéré personne parce que bon, il y avait le cabinet politique et les cabinets administratifs, Donc, nous, on n'était pas des fonctionnaires, on était des cadres politiques. Et voilà. Donc.
Comment vous avez vécu ce moment?
Je dirais, c'était pas facile. C'était pas facile, tout ça, parce que bon, c'était, vous savez, la guerre, c'est pourquoi moi je me dis, la plus mauvaise chose qu'on peut, vivre dans la vie, c'est la guerre. Parce que bon, vous savez, les choses ont changé en un tour de main. Donc, tout perdu. Et mon emploi, et la famille disloquée, et les matériels, tout ça, ben voilà. Donc c'était pas évident pendant ces temps-là de changement violent, parce qu'en fait c'était un changement violent. On le dit pas assez, mais ça a créé beaucoup de problèmes.
Est-ce que vous êtes exilé? Parce qu'on sait que beaucoup des personnes qui ont travaillé avec le maréchal à l'arrivée de l'AFDEL, beaucoup avaient préféré quitter le pays.
Moi, je ne suis jamais parti en exil. C'est-à-dire que je m'étais dit, les choses doivent changer. C'est vrai que les choses doivent changer dans ces pays, mais ça va se faire avec moi. Ça ne va pas se faire sans moi. Et je me suis dit, même si on me tue, ben voilà, je vais mourir, mais au moins, j'ai été utile à quelque chose. Donc, je ne voyais pas pourquoi est-ce que je devais fuir. Et c'est pourquoi j'étais resté.
Et vous avez eu raison de ne pas fuir parce que après vous avez travaillé quand même avec le régime de Kabila père.
Oui, tout à fait. Mais dans quelles conditions? Je vais juste vous raconter un peu une anecdote. À l'époque, quand j'étais chargé des missions, donc je gérais également le patrimoine immobilier de la présidente. Voilà. Donc et un jour comme ça, je vois un camion de militaires qui débarque chez moi, tout ça. Et il commençait à parler, il parlait, je me rends compte qu'il parlait Swahili avec la maman. Vous imaginez que bon, nous, on connaissait un peu de langue. Alors, le militaire était surpris que, ben voilà, on avait dit que ces gens, c'est plutôt des gens du Nord, tout ça, mais comment ils parlent très bien, ils sont très à l'aise, en Swahili, tout ça. Alors, le problème, c'était quoi? Il demandait, il voulait, avoir la personne qui s'occupait de la gestion immobilière de la présidence. Alors, maman avait peur, naturellement, pour lui, il se disait, bon, on allait l'arrêter, elle est venu me demander, il dit, non, mais voilà, il y a des militaires qui sont, est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir, de fuir, tout ça? Je dis, non, je vais pas fuir, c'est peut-être, ils ont besoin de moi. Et, je suis sorti, on dit, non, mais voilà, on a besoin de vous, à la présidence. Et, j'arrive, à l'époque, c'était au palais, le bureau de l'OBEMA à l'époque, donc c'était là où il y a le service de protocole. Oui, ça a commencé donc au service de protocole de la présidence. Alors j'arrive là-bas, donc on me dit non mais voilà, on dit que c'est vous la bibliothèque du patrimoine de la présidence. Il y a des gens qui sont arrivés qui n'habitaient pas ici au pays, donc on a besoin de vous, le pays a besoin de vous. Et j'ai pas hésité un seul instant. Et c'est là où j'ai commencé, avec le régime de Mzé Kabila.
Mais cet office a disparu. Hein.
Oui,
l'office a... Qu'est-ce qui s'était passé?
Vous savez, au début, l'idée n'était pas mauvaise. Parce que je me rappelle à l'époque, quand nous étions à la conférence nationale, il y a eu des commissions de biens mal acquis. Donc, quand on parle de biens, il y a pas que de biens meubles. Il y a même les richesses du pays. Il y avait des gens qui stockaient, qui ont fui avec beaucoup d'argent à l'extérieur, des choses comme ça, tout ça. Donc, c'est des choses qui étaient connues. Beaucoup de problèmes au niveau de pillage de ressources. Alors, l'idée, c'était, moi, je pensais, c'était vraiment plutôt ça, chercher à récupérer le bijou de la famille, comme on dit, le patrimoine national, pour que ça serve au développement. Mais curieusement, ça a dévié un peu. Ça a dévié. Moi, déjà, 3-4 mois après, j'ai été coopté ailleurs pour travailler dans une autre institution, mais j'ai trouvé j'ai laissé, en tout cas, la barque qui était pratiquement déjà en dérive.
Après l'Obema, vous avez travaillé dans plusieurs cabinets ministériels.
Oui, mais après l'Obema, j'ai été plutôt désigné comme chargé des missions, on les appelait comme ça, à la Société Nationale de Loterie. Donc, c'était pratiquement l'administrateur délégué. Mais on les appelait les chargés des missions à l'époque. Donc, effectivement, c'est là où je suis parti pendant une année, gérer la Société Nationale de Loterie, SONAL PME.
Jusqu'en 2000, vous avez travaillé dans les cabinets ministériels. En 2001, vous quittez le pays pour aller travailler dans un projet de fibre optique pour l'Afrique.
Tout à fait. Bon, vous savez, la fibre optique ici, dont on parle pour le moment, ça a commencé avec le projet, ce projet-là, ce fameux projet, le projet Africa One, où la RDC était intéressée, naturellement avec raison, et la RDC voulait acheter des capacités, comme on dit à l'époque, tout ça. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait mener des négociations, tout ça. Et voilà, et c'était moi qui étais choisi.
C'est à Bruxelles
que vous êtes allé. Oui, c'est à Bruxelles que j'ai posé mes pénates.
À la fin du projet, vous avez préféré rester en Belgique au lieu de retourner au pays?
Le projet, il y a eu des problèmes. Donc, il y avait des problèmes. Bon, il y avait plusieurs parties en présence. Donc, ça va. Il y a eu des problèmes entre les Américains et les Français avec Alcatel, tout ça. Donc, le projet a capoté. Et je me suis dit, non, mais voilà, c'était quand même une occasion aussi pour moi de profiter pour faire ma thèse, terminer ma thèse et tout ça. Et puis après, rentrer au pays.
Est-ce que vous êtes rentré directement au pays après votre thèse de doctorat?
La thèse de doctorat, je ne l'ai pas encore finie.
Non.
Voilà.
C'était la raison qui m'a retenu. En Belgique.
Mais en Belgique. Pourquoi? Pour la toute simple raison, parce que c'est vraiment là où, vous savez, moi, je suis quelqu'un de curieux et je me disais, ben voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre que je peux apprendre ici pour un jour l'amener au pays. Et vers les années 2001, j'ai rencontré quelques amis africains qui étaient motivés par l'idée de créer une agence de développement privée pour l'Afrique. Donc, ben voilà. Ça s'appelait Africa Synergie International. Ils m'ont intéressé, ils disent non mais voilà, nous on a étudié, il y a d'autres qui ont fini des études ici, qui travaillent, qui sont dans des organisations internationales. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement pour nos pays en Afrique? Mais pourquoi on ne peut pas réfléchir sur des modèles qui soient endogènes, de modèles naturellement on peut s'inspirer des expériences des autres, mais qui soient vraiment calqués sur les réalités africaines. Et j'étais très intéressé par ce projet et j'ai adhéré à ce projet et curieusement, quelques temps après, j'ai été choisi comme le patron de cette structure, de cet agent.
Elle existe toujours, l'agence?
Oui, ça existe toujours, Africa Synergie. Nous sommes très forts dans quelques pays, au Sénégal, par exemple, où il y a eu des très, très grands projets qui ont été montés par cette agence, dont, par exemple, le projet des éco-villages. Je crois que c'est même un projet où j'essaie d'implémenter ça dans notre pays. Aujourd'hui, le développement du Sénégal, c'est bien ces concepts des éco-villages. Et voilà. Et puis, bon, il y a au-delà de ça, il y a un mécanisme que nous avions mis en place, qu'on appelle le mécanisme de business angels. C'est-à-dire que comment est-ce que le privé peuvent s'impliquer dans le financement de projets locaux, s'entendre la main, toujours vers l'extérieur, tout ça. On peut s'organiser et financer nous-mêmes nos propres projets. On appelle ça le business angels.
Vous dites que ça marche très bien au Sénégal. Quoi, ici, chez nous, ça marche pas encore bien?
C'est moi qui étais venu implémenter ce projet chez nous ici. Je dois vous dire sincèrement que j'ai été très bien reçu. Donc, j'ai négocié à l'époque parce que bon, c'est un projet où il y a beaucoup d'écologie, hein, donc et un projet de développement rural. Donc, j'ai pris contact avec les deux ministères, hein, le ministère de développement rural et le ministère de l'environnement, et j'ai eu le go. Donc l'autorisation de démarrer, mais le gros du financement, même si c'était un financement multi-bailleur, le gros du financement provenait du fonds vert. Le fonds vert, c'est un fonds public, donc nous, en tant qu'entité privée, nous ne pouvons pas comme ça aller accéder au fonds financement public. Il fallait passer par le gouvernement. Voilà, donc c'est le gouvernement qui nous a soutenus à l'époque, c'était en 2015, pour accéder à ces fonds. Malheureusement, dès que les choses ont commencé à évoluer positivement vers vers les années 2017-2018, les problèmes politiques ont commencé avec les élections ici, tout ça. Le fonds a été bloqué, tout ça. Ben voilà, ce qui a fait qu'on a connu de retard par rapport à cela. Mais je suis rentré pour relancer effectivement également ce projet que j'estime être très très intéressant pour le pays.
Alors, je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes très impliqué dans les projets de développement en RDC. Vous êtes parmi les initiateurs du projet Mwinda Epela. Parlez-nous un peu de ce projet.
Mwinda Epela, c'est dans le domaine de l'énergie. Vous ne pouvez pas comprendre, madame, qu'un pays comme la RDC, qui a le soleil du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, donc pratiquement tout le jour. Même s'il pleut, quelques temps après, il y a le soleil qui pâlit. Donc on ne peut pas comprendre qu'un pays comme ça, qu'on puisse avoir un problème de l'électricité. C'est impensable. Voilà. Donc moi qui vis à l'extérieur, un pays comme la Belgique, qui n'a le soleil que pendant 3 mois. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, le taux de desserte en énergie via les énergies renouvelables, comme le solaire, c'est plus de 10%, plus de 20%. Donc, c'est impensable qu'un pays comme ça, comme le nôtre, puisse souffrir. C'est ça un peu le paradoxe congolais. Alors, moi, je me suis dit, non, mais voilà, je peux faire quelque chose. Et c'est dans ces cas-là que j'ai conçu, avec quelques amis, le projet Mwinda Epela.
C'est un projet d'électrification.
C'est un projet d'électrification de foyers urbains, ruraux, pour chaque famille congolaise.
Qu'est-ce que ça a donné?
Nous avons commencé. Nous avons commencé avec nos propres moyens. Parce que nous avons pensé que non, mais voilà, si vous-même, vous ne vous aidez pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous aider. Donc, première des choses que nous avons fait, c'était de prendre un pilote, donc un site pilote, lequel nous allons commencer. Nous avions pris un site qui est à Songololo, Kisonga, dans le Congo central. C'est ce site-là qui va nous servir d'épicentre pour démarrer ce projet.
On a contacté un ami à vous qui nous a parlé un peu de votre personne. Ouais. On va l'écouter et puis on va revenir dans ce studio pour votre réaction.
Je connais Jean-Baptiste Bokoto. C'est un ami d'enfance. Nous avons fait ensemble les 400 coups. Donc, nous avons grandi ensemble dans la commune de Bandal et jusqu'aux études universitaires. S'il me fallait décrire la personne de Jean, je dirais que Jean est une personne résiliente et que Jean, c'est quelqu'un qui pense d'abord aux autres, un humaniste. Quand il a une idée, il associe tout le monde pour réussir ce projet. C'est quelqu'un qui voit d'abord la valeur de l'homme dans ce qu'il fait, la place de l'homme. Il n'est pas égoïste, ce n'est pas un égocentrique, mais c'est quelqu'un qui voit l'ensemble, qui pense à tout le monde, qui veut changer les choses, qui veut changer les choses pour le bien de l'humanité. C'est ça, Jean. Et moi, ce que je lui reproche de temps en temps, c'est d'être un fonceur, d'aller un peu vite, d'oublier certaines choses et de foncer. C'est ce que je lui ai toujours reproché. Quand il a une idée, il est focal sur l'idée, focalisé à 100% sur l'idée, et des fois, il oublie certaines choses. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne le comprennent pas. Je reste convaincu que Jean, c'est quelqu'un qu'il faut travailler avec lui. Il a des idées parce que il a plein d'idées. C'est un monsieur qui à tout moment réfléchit et crée des idées, des choses nouvelles pour le bien de l'humanité. C'est pour ça que je dis que c'est un humaniste. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il reste comme il est, qu'il continue ainsi, qu'il n'abandonne pas, même si il se sent de temps en temps seul dans son combat parce que il n'est pas compris par les autres, mais il doit continuer parce que un jour il réussira, parce que il le fait non pas pour lui mais pour le bien de l'humanité. Et c'est ce que je pouvais dire pour Jean. En tout cas, Jean, si tu m'écoutes maintenant à ce moment-ci, je te dis, continue, je suis là. J'ai toujours été à tes côtés pour t'accompagner et je t'abandonnerai pas. Nous sommes ensemble et que nous puissions triompher dans notre vision. Merci.
Merci, monsieur. Alors, Jean-Baptiste Bokoto, vous avez reconnu la voix?
Oui. Après, au début, c'était un peu difficile, mais là, avec le temps, j'ai eu à reconnaître la voix et c'est très touchant. Je suis un peu...
Un ami d'enfance avec qui vous avez fait les 400 coups.
Oui, effectivement. C'est un ami d'enfance.
Monsieur Deo Gracias.
Oui, c'est un pasteur, un grand pasteur.
Oui, le pasteur Deo Gracias Nendumba.
Oui, effectivement.
Ça vous fait quoi lorsqu'on fait ce témoignage, ce genre de témoignage sur vous? Vous êtes une belle personne, hein, un bosseur.
Vous savez, c'est souvent difficile de vous parler de vous-même. Et quand vous attendez ça, la part de quelqu'un qui vous connaît très bien, tout ça, et je me reconnais dans ce qu'il dit, et je me dis quand même que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un vœu pieux.
Vous foncez un peu trop, là.
Mais là, je crois que c'est souvent le problème que j'ai souvent connu. Voilà, donc on me dit toujours que je suis souvent en avance par rapport à mon époque. Mais il y a des fois où je me dis, mais en fait, il y a des choses... Aujourd'hui, là, quand vous voyez, par exemple, un pays comme le Sénégal, où nous, quand on commençait ce projet-là, de Moundé-Pela, tout ça, par exemple, eux, ils étaient à une desserte de 30-40% dans l'accès à l'énergie. Mais aujourd'hui, ils sont à 80%, vous imaginez. Et pendant tout ce temps-là, c'est du gâchis. Voilà. Et c'est des choses où on pouvait le faire et aujourd'hui être très loin. Et voilà. Et moi, je me dis, c'est même des choses qui sont pas très compliquées. Voilà. Donc, des financements citoyens, comme je le dis là, avec les business angels, c'est des choses très simples. Voilà. Aujourd'hui, ces concepts-là que nous avions conçus de business angels, avec Africa Synergy, mais Africa Synergy, c'est le seul réseau de financement innovant, là, comme je dis, qui est membre de France Angels, parce que France Angels, c'est vraiment le méga, donc la grande association qui gère, en fait, les réseaux africains. Donc, le seul réseau de financement innovant africain qui a été accepté par France Angel, c'est Africa Synergy. Et Africa Synergy, je dirais, c'est une idée des Congolais. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez les articles des jeunes Afriques qui, à l'époque, qui titraient Africa Synergy, le premier réseau panafricain de business angels, on ne me disait pas que c'était Congolais, mais c'est Congolais. Mais quand je suis venu lancer ces concepts dans mon propre pays, jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans, ça n'a jamais été accepté. Mais ailleurs, plus de 90% des entreprises, des start-up, par exemple, dans le pays de l'Afrique de l'Est, c'est financé via le Business Angels. Voilà. Donc, c'est ça. des choses qui, parfois, m'horripilent. Je me demande comment est-ce qu'on peut arriver à ce point. Et parfois, les gens vous bloquent tout simplement par plaisir de bloquer. Que toute la population souffre, mais que Jean-Baptiste ne réussisse pas. Ben voilà, voilà.
Alors, on va souffler encore. Cette fois-ci, vous voulez qu'on vous mette quoi comme chanson?
Ça, je vous l'ai dit, hein. J'aime bien Ferré. J'aime bien Ferré. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien ces garçons.
Peut-être voilà. Parce qu'ils chantent bien.
Il a une belle voix, mais quand vous, c'est-à-dire que moi, quand je j'écoute ces garçons, j'ai des chairs de poule, effectivement. On l'appelle même chair de poule. Je sais pas.
Ouais. Un titre de Ferré qui vous vient en tête?
Je ne connais pas le titre, mais j'aimais bien la chanson que Togo Zonga Maboko Pamba.
Voilà, j'aime bien. Maboko Pamba le titre, n'est-ce pas, Jean-Louis Mokondo? Maboko Pamba. Voilà.
Voilà.
Maboko Pamba pour votre plaisir. Jean-Baptiste Bokoto Apanda.
Moto ya koi simbon. Alubara moi si ga koi sita. Même logoti. Et par les cigarines de Bokotaki. Ah, c'est mal à l'autre côté de l'Imboyer. Mobila. Chesco Bila. Souvenir. Marco Masuka, mais c'est propre. Les campos cabriolets de Rotterdam. Angèle Seke. José Malonga. Grévis Ngoma, fondé du pouvoir.
Tabako yambela mopaya soki batia mosi Mateo. te baba lingi mo pa ya lia polo ya pamba e rigongobila
papa no aron rigongobila mobali
oke pa ya molongani bapesi yo ebonga ya mokuse te baba lingi omela te mosusu azanga nzela e rigongobila
Alain Rodal na Canada
bafungoli mbwa oya ina solo na yo Luka nzela na mosusu kuna siyo koma zero
Didier Masaya Vatican Adolungu André Kazai
Ibenga na yonde vanisa kiyo kuna longtemps Koko na nangoya lilwe sako benga nisa yo
Medo Shauma Klebo wa toujours
So kina feti mulonga nyako miko tambola tambola Chantier se koluta bande kweza kadre mae
Chirigola papa Suraya Kelly Willy Tembela unité centrale
Tembela tesa makambo eyaka Sota pambe dila ibulu moli moteo Mundo mwona kie dini esheke Kwa zari kwa mabeteo
Grave Mwini Serge Sayal Wivini Matsuda Sacré Sola
Olela tesa makambo eyaka
Je m'en fous
Sota pambe dila ibulu moli moteo Kuno mwona kie dini esheke Kwa zari kwa mabeteo
Elvis et Sugar
Nika pedi ya buku eko kanzonko Pono teko kanta la tanka leo Bozo bozo sala alelo Terni selango maya miswa rigoteo
Ige Kapela Bouboul Sessau Florent Pamban Pajou Simba TTC
Mange koki mwana kela siya misingi na pongi mokale tsebe yoko kuma nini
Eme mamon
Kama moto abomela pese moto yebaka teo Pesa yebiye mokopo pesa troye
Omba lumumba shama suna Eve mwanza
Yo moko komila boni Na yo wala sana yo e
Jomo damo
Yo moko loni mapanga Na bilanga riko keko sala nini e
Didier Salongo Présence ma scène. Fatima Folo. Linda Kashama.
Bakangi ngana bola komama. Nasi manangai okoti simo balie.
Oso mama koko mama.
Beti mula mama.
Oso mama koko wala na wala na wala na. Sele koko nela yoko tayi. Akole koko na yoki loe.
Clarisse Elizarazu.
Oso mama koko mama.
Charlène Michigan, Viviane Yu, Lorette Poto, Nanou
Mosese.
Le grand témoin.
Parlons à présent de Jean-Baptiste Bokoto Apanda, l'écrivain. Vous avez commencé à écrire en quelle année et qu'est-ce qui vous a inspiré?
Vous savez, la lecture, c'est vraiment, je me dis même que la plus grande richesse que j'ai, c'est vraiment la lecture, hein, le goût de la lecture, comme on dit. Comment les choses ont commencé? C'est-à-dire que bah, déjà, quand je suis entré au collège, pendant les vacances, on avait un prêtre là que j'aimais bien, qui était pratiquement un peu mon support, le père Liagre. Et il avait sa petite bibliothèque dans son bureau. Chaque semaine, donc on vous donnait un livre, quand vous terminez la lecture, vous revenez récupérer l'autre, vous laissez le résumé que vous avez fait du premier livre.
C'est obligatoire.
C'est obligatoire. Et il n'y avait pas que lui. Donc, c'est pratiquement au collège, c'était comme ça l'esprit. Progressivement, j'ai appris à aimer non seulement lire, mais également commencer à gratter quelque chose. Jusqu'à ce qu'à un moment là, ben, vous savez, à l'époque, nous, il n'y avait pas d'iPhone à l'époque, tout ça. Quand on draguait les filles, c'était des belles lettres. Et j'étais devenu pratiquement C'est lui qui écrivait des lettres pour les amis. Il venait chez moi, tout ça, et c'est moi qui leur faisais préparer des lettres, tout ça, pour qu'ils envoient à dehors du Chiliné. Et d'ailleurs, je fais un livre où je prie un condensé de toutes ces belles lettres-là, qui, voilà. Et je prie qu'un échantillon, parce que c'est tellement de centaines et de centaines, mm-hmm. tout ça, et puis il fallait demander des autorisations à l'époque, pour ceux qui sont encore en vie, mm-hmm. pour ceux qui sont partis, je pouvais pas le faire. Mais voilà. Donc, ça a commencé comme ça, tout ça. Et puis, bon, progressivement, surtout quand je suis allé en Europe, comme j'avais quand même du temps, j'ai commencé à écrire, et curieusement, j'ai déposé une première demande pour l'édition. Ça a été accepté sans beaucoup de difficultés, à Harmattan, tout ça. Et puis, bon, ben voilà, et ça a pris du goût.
Vous écrivez votre premier roman à 20 ans.
Oui. Là, c'était, je crois, j'étais déjà au campus. Je suis à l'université. Et ben voilà, c'était le premier roman.
Sans sur le mar. Oui. Voilà. Il parlait de quoi?
Ben, c'était déjà prémonitoire. C'est-à-dire que c'est... Le sang, c'est du sang, donc la violence. Et le marbre, c'est la richesse du pays. Voilà. Déjà, à l'époque, je me disais que si le Congo aura un problème, ce sera surtout à cause de ses richesses. Voilà, et je parle de ça.
Votre deuxième roman, Espoir sous les ailes, c'est un ouvrage, un roman que vous avez écrit lorsque vous étiez en Europe.
Tout à fait. L'Espoir sous les ailes, c'est un... je parle beaucoup plus de l'immigration. Et je ne comprenais pas, par exemple, comment est-ce que des jeunes qui pouvaient tout braver, se mettre même dans les cales des bateaux, tout ça, rester pendant 2 ou 3 semaines sans manger... pour manger des rats ou tout ça, juste parce qu'ils veulent arriver en Europe. Donc, ben voilà, j'ai parlé un peu de ça. Je me demandais comment quelqu'un peut être amené à ça. Moi qui ai vécu quand même un peu à l'extérieur, je vous dis, quitter son pays, quitter ses racines, tout ça, ça n'a jamais été de gaieté de cœur. Hein. Ne vous en faites pas. Ça n'a jamais été de gaieté de cœur. Donc, les gens... La plupart de gens qui partent, ils partent parce que contraints. Voilà. Donc, ben, ils vont aller se battre. Dans la vie, tout le monde veut gagner sa vie, gagner. Et voilà. Donc, on ne peut pas, comment je peux culpabiliser quelqu'un qui cherche à gagner sa vie. Et voilà. Donc, s'il y avait des conditions, des très bonnes conditions ici, s'il y avait une bonne répartition des richesses, tout ça, la personne ne serait pas partie.
Vous avez quand même plusieurs ouvrages à votre actif. En 2015, vous publiez une histoire de violence, Je suis Charlie au Congo.
Voilà.
Un titre assez intriguant.
C'est vraiment...
Histoire de violence, Je suis Charlie au Congo.
Voilà, effectivement.
Est-ce que ça a un lien avec l'attentat contre Charlie Hebdo?
Effectivement, et c'est un livre, c'est caractère intrigant qui a d'ailleurs fait le succès du livre. Parce que le titre, c'était pas juste Charlie au Congo, le titre c'était Génération Z. C'était Génération Z. À l'époque, ça dit Génération Z, ça dit je parle de l'époque Mobutu. Et quand vous lisez le livre, c'est vraiment un livre qui parle de l'époque Mobutu. Hein, comment les gens vivaient à l'époque, tout ça. Donc, c'est un livre mi-biographique, mi-fiction, hein, tout ça. Et puis, avec beaucoup de récits, de faits réels. Hein, donc, c'est fondé sur des faits réels. Et voilà, donc c'est pourquoi j'avais pensé à l'époque d'intituler Génération Z. Curieusement, juste pendant que j'étais dans le démarche pour faire paraître les livres, il y a cet attentat de Charlie Hebdo. Alors, bon, moi qui suis parfois un peu, je bouscule, j'appelle mon éditeur, donc Harmattan, je dis non, mais voilà, je voudrais changer les livres, changer les titres du livre. Il dit, mais comment, Jean-Baptiste, mais comment? Je dis non, en tout cas, j'aimerais changer les titres du livre. Alors, il dit, ok. Je dis, mais je vais juste ajouter un sous-titre, tout ça, voilà. Ça me tient à cœur. J'ai envoyé le sous-titre. Au début, ils ont refusé. J'ai dit, non, vous ne pouvez pas. C'est ce que je veux. Vous ne pouvez pas penser à ma place. Et ils ont accepté finalement le sous-titre de Je suis Charlie au Congo. Pour tout simplement.
Pourquoi? Voilà, le lien, c'est quoi le lien? Parce que je suis un peu perdu là.
Voilà. Le lien, c'est que j'ai senti, j'étais choqué, hein, sincèrement, par cet attentat de Charlie Hebdo, parce que j'avais un abonnement d'ailleurs. On envoyait tout le temps le truc de Charlie Hebdo, tout ça, donc chez moi en Belgique. Et j'aimais bien leur sens d'humour, la vérité derrière l'humour. Voilà. Alors, quand cette histoire, on a vécu cette histoire, j'ai senti cette mobilisation mondiale. Cette mobilisation mondiale. En tout cas, c'était le monde entier qui s'est levé pour condamner cet acte ignoble. Voilà, qui n'a pas de mots. C'est vrai, naturellement, moi aussi, j'avais compati. Mais au même moment, il y a eu, une série de massacres à l'époque. C'était à Beni. C'était des choses aussi ignobles, hein, où on coupait des têtes, tout ça. Mais vous imaginez, ça ne datait pas que de ces jours-là. Ça date des années, tout ça. Alors, je mesurais un peu, hein, le niveau de l'état de l'opinion. Mais je me suis rendu compte que l'article sur le Congo, ben, c'était pratiquement, je crois, c'était dans les divers. Hein. C'est dans les divers. Donc, ça dit que
on ne sentait pas cette mobilisation. Les massacres qui se passaient dans l'Est.
Effectivement. Donc, tout ce qui se passe au Congo, ça fait pratiquement plus de 20 ans aujourd'hui, c'est le divers. Voilà. C'est dès les divers. On ne sent pas cet engouement. Or, ailleurs, pour un cas comme celui de Charlie, qui était aussi naturellement atroce, tout ça, mais on a senti cet engouement. C'est un peu une sorte de. C'est une sorte d'injustice. Voilà. Et je voulais vraiment mettre l'accent sur cet élément-là. Voilà. Il faut changer de paradigme, parce que on ne peut pas voir des gens souffrir, voir des gens être massacrés, tout ça, et regarder avec une sorte d'hypocrisie. Ce n'est pas bon. Voilà, c'est ça.
Ce livre a eu un grand succès, justement parce que les gens voulaient découvrir Charlie au Congo.
Effectivement.
Ça parle de quoi?
Tout à fait. On me demandait, Charlie au Congo, c'est qui? Alors, Charlie au Congo, c'est le Congolais. C'est le Congolais. C'est des femmes violées, tout ça. Et dans quelles conditions? C'est des jeunes qui sont devenus des enfants soldats. De peuples qui sont devenus de chair à canon. C'est tous ces aspects-là qu'on ne voit pas trop. Voilà. C'est ça, Charlie au Congo. Il y a des gens, par exemple, quand vous allez dans le Kivu, mais des jeunes qui sont nés dans la violence et qui grandissent, qui vieillissent dans la violence. Voilà. Ils n'ont jamais connu de tranquillité. Mais il faut être, quelqu'un de déshumanisant pour ne pas voir ça et essayer de faire quelque chose. Voilà, donc c'est le livre est basé sur ça.
Où peut-on se le procurer?
À Kinshasa, c'est au niveau de l'édition des Grands Lacs. Voilà, c'est l'édition des Grands Lacs qui a pratiquement l'exclusivité. Le Grand Lac, c'est sur avenue Ebeya, c'est juste en face de ce qui était à l'époque la nouvelle banque de Kinshasa. Voilà, c'est devenu une banque aussi à côté, mais je me rappelle. Donc, pas très loin de l'hôtel de ville.
L'hôtel de ville.
Tout à fait.
Et donc, il coûte combien?
$10.
Jean-Baptiste Bokoto, nous sommes à la fin de notre émission, Le Grand Témoin. J'aimerais quand même avoir votre avis sur la situation que traverse la RDC actuellement.
Vous savez, pour mieux gérer la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre ici depuis plus de 20 ans, il faut connaître les vraies raisons. Tant qu'on ne connaît pas les vraies raisons, c'est difficile de gérer les choses ou de corriger les choses vraiment de manière beaucoup plus efficace. Le problème du Congo, il est un, c'est les ressources. Tout ce que nous sommes en train de connaître comme conflit, tout ça, c'est à cause de nos ressources. Mais il suffit pas de pleurer, de se victimiser, tout ça. Il faut chercher des solutions concrète pour résoudre ce problème. Et c'est pourquoi je me dis, ben voilà, il y a trois manières de poser le, de faire les choses. D'abord, un, agir de manière à court terme, naturellement, parce que là, il y a des gens qui meurent, tout ça, il y a la guerre. Ben, avoir renforcé les capacités de l'armée pour que notre armée soit en mesure de protéger les biens et les personnes. Parce que naturellement, ça, c'est la première des choses. Ça, c'était un travail républicain. Mais au-delà de ça, il y a maintenant un travail à moyen terme. Ben, à moyen terme, réfléchir sur les raisons qui font qu'aujourd'hui, on en est là. Et c'est toutes les années, c'est pratiquement les mêmes cycles de répétition, tout cela. Si on ne réfléchit pas très bien sur les vraies causes, sur les vrais enjeux, ce sera difficile de sortir de la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ben, naturellement, commencer d'abord par comprendre que aide-toi, le ciel te dira. C'est-à-dire que c'est bien voir quelques États venir nous aider, tout ça, mais il faut d'abord vous-même comprendre que non, mais voilà, c'est d'abord vous-même qui faut. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Et l'arme. Il y a beaucoup de façons de combattre. Voilà. Donc, tout le monde ne sera pas militaire. Déjà, avec ce que je suis en train de faire, c'est déjà une façon de combattre. Un musicien peut le faire, un médecin peut le faire à sa manière. Un journaliste peut le faire à sa manière. Donc, vraiment, déjà comprendre que, voilà, c'est d'abord nous-mêmes. Une mobilisation, quand on parle de mobilisation, c'est vrai, c'est une très bonne chose, mais la mobilisation doit se focaliser sur le fait que non, mais voilà, je suis Congolais, c'est mon pays, je n'en ai pas d'autre, je dois faire quelque chose. Voilà, et c'est pourquoi, déjà à l'époque, quand j'avais lancé le Touche pas à mon Congo, c'est moi qui avais lancé le Touche pas à mon Congo.
Ok.
Voilà, la campagne devait être... Ça, il faut aussi que je corrige un peu. La campagne de veille patriotique, c'est moi qui l'avais lancée. C'est moi qui l'avais lancé
à partir de
Bruxelles. Non, j'étais ici.
Vous étiez ici.
En 98. C'était en 98.
Oui.
Voilà, c'était en 98, j'étais ici. Et j'ai lancé la Touche pas à mon Congo, j'allais dans des écoles. J'ai été convoqué par les services de sécurité. Comment tu peux avoir ces idées-là, tout ça? À l'époque, il y avait un gouverneur qui s'appelait Théophile Bemba, quelque chose comme ça. Il m'a convoqué tout ça à l'hôtel de ville, m'a demandé l'idée est venue comment, tout ça, de faire une fiche pour expliquer des idées, qu'est-ce que je voudrais faire, tout ça. Ben voilà, j'ai lancé, j'ai donné, et quelque temps après, je vois une campagne qui est menée quelque part au niveau gouvernemental sur le campagne nationale de veille patriotique, la paix se gagne, tout ça. Uh-huh. Mais on ne vante pas l'eau chaude. Ça a commencé quelque part. Ils se sont inspirés de quelque part pour arriver là. Et je le fais. Personne ne m'a demandé. Et c'était pas pour gagner quoi que ce soit. Parce que ceux qui ont fait ça après, ils ont gagné. Mais moi, je le fais. C'est parce que j'aimais mon pays. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faudrait faire. Non pas simplement chercher à tirer les choses de son côté. Tout ça. Parce que ce n'est vraiment pas en faisant ce que nous sommes en train de faire, où chacun tire les choses de son côté, qu'on peut changer le paradigme. Donc.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Bokoto Apanda. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. On vous souhaite bon dimanche et peut-être à la prochaine dans un autre magazine, dans une autre émission sur Radio Capi.
Oui, ça a été une très, très belle émission et très émouvant.
Merci beaucoup, grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la mise en onde, présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net.